Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire plusieurs lectures. La première dans Ésaïe, au chapitre 63, au verset 19, ce qui exprime ce qui se passe lorsque l'Église n'obéit pas. Ésaïe 63, verset 19. Je pense que vous allez être d'accord avec ce verset. Nous allons lire jusqu'au verset 6 du chapitre 64. Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe 63, verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Vous y regardez le verset 10 de ce chapitre, il y a cette notion de rébellion et le fait qu'on a attristé le Saint-Esprit. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face. Amen. Mais vous pouvez inverser ce verset, et il est certain que si quelqu'un se met vraiment à invoquer Dieu et à se réveiller, et à s'attacher à lui, il est certain que Dieu ne nous cachera pas sa face. Il y a au verset 4, une parole moi, qui m'a interpellé, beaucoup interpellé. On la relit. Qu'est-ce qui est écrit? Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. On va rester sur ce verset, on va en voir d'autres. Et hier, je lisais le livre des Chroniques, je lisais le livre de l'Exode, et à plusieurs reprises, par rapport à l'œuvre de Dieu, nous voyons que l'œuvre de Dieu a pu se faire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il y avait des hommes et des femmes dont le cœur était bien disposé. Vous le vérifierez, c'est dans Exode 35, dans 2 Chroniques, chapitre 29, si ça vous intéresse. Et il est dit, et ça plaît à Dieu, des hommes et des femmes dont le cœur était bien disposé. Et c'est vrai que c'est une disposition de cœur. Déjà, dans quelle disposition de cœur nous sommes là? Même vous, les enfants, dans quelle disposition? Vous écoutez? Vous allez écouter? Vous avez intérêt. Mais dans quelle disposition? Bon, les enfants, on comprend, il faut les cadrer un peu pour qu'ils se tiennent. Mais les adultes aussi. Il faut parfois les aider à comprendre qu'avoir un cœur incliné, disposé, sensible, c'est quelque chose de sérieux. Et on voit dans l'Ancien Testament que l'œuvre de Dieu s'est faite avec des hommes et des femmes qui avaient un cœur disposé. Dans quel état d'esprit est notre cœur ce matin? Comment est-il disposé? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que c'est un souci, entre guillemets? Paul parle, dit « déchargez-vous de tous vos soucis » et en même temps, il dit « mais les soucis que me causent les églises de Dieu, ça paraît paradoxal, mais ça se comprend très facilement. » Et je voudrais que nous comprenions que l'Église sera vraiment bénie, comme nous aimons le chanter, dans la mesure où Dieu trouvera des hommes et des femmes qui marchent dans la justice, des hommes et des femmes qui sont agréables à Dieu. Oui, on va prendre, vous avez vu, de celui qui pratique avec joie la justice. Je l'ai dit 50 fois, comme l'a dit Jérôme en introduisant le chant, ce sont peut-être des choses que vous allez entendre ou réentendre, mais si on ne le pratique pas, si on n'obéit pas, laissez-moi vous dire que ça vaut la peine que Dieu nous les répète, croyez-moi. Alors, tu vas au-devant, je ne sais pas si vous réalisez la promesse, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Est-ce que ce verset vous intéresse? Est-ce que vous réalisez ce que nous venons de lire? Alors, on pourrait prendre des exemples, et on va le faire. Par exemple, Noé. Noé, est-ce que Dieu dit de lui que c'est un homme juste? Est-ce que c'est écrit? Noé était un homme juste. Il marchait avec Dieu dans son temps. On a vu ça hier soir avec les ados, parce qu'il y a des prophéties qui indiquent que ce qui s'est passé du temps de Noé se repassera de la même manière lorsque Jésus reviendra. Il est dit que du temps de Noé, la terre était pleine de violence, que la pensée du cœur des hommes se portait uniquement vers le mal. Est-ce que vous pensez qu'on est un petit peu dans le même topo? Ben oui. Eh bien, Jésus a prophétisé. Ce qui est arrivé, arrivera. C'est exactement ce qui se passe. Et Noé, lui, était un homme juste. Mais pourquoi il était juste? Pourquoi il était juste? Puisque quand même, ça vaut la peine de s'intéresser à cette affaire. Je ne sais pas vous, mais si vous voulez plaire à Dieu, il est certain que vous allez vous appliquer à comprendre, mais qu'est-ce que ça signifie? Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Alors il y a les chrétiens superficiels qui vont dire, mais moi, la pratiquer la justice, c'est ma clé, c'est réglé, Jésus est ma justice, je suis justifié par le sang du Seigneur, alors voilà, moi je suis un juste. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout ça, c'est quelque chose de plus. C'est monnaie courante ça, de confondre la sanctification, la justification avec la pratique de la justice et à la marche dans la sainteté. Il y a un méli-mélo, bon, le diable a poussé à la roue, je pense, pour que les chrétiens soient dans la confusion. Mais voyez, je prends un verset, on va revenir à Noé. Quand il est dit, par exemple, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous l'avez lu, ça? C'est écrit où? Dans Jacques. C'est bien. Je préférerais que ce soit des hommes qui répondent. C'est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors un chrétien peut se gargariser de dire, ouais, mes prières vont être exaucées et je vais prier avec ferveur. Mais moi je vous dis que la prière fervente de celui qui n'obéit pas n'a aucune efficacité. Et je dis bien la prière fervente. Ne vous imaginez pas que ce n'est pas la ferveur humaine et les cris et une espèce de pseudo-assurance qui fera que Dieu va être obligé d'exaucer nos prières parce que nous prions avec des décibels. Ça n'impressionne pas le Seigneur, nos décibels. Ce qui plaît à Dieu, c'est la prière du juste. Parce que de toute façon, la prière du juste sera remplie d'assurance. Alors ce verset, moi je voudrais vous aider à l'intégrer, à le comprendre, car quand même, quand vous lisez tout ce qui est écrit sur ceux qui pratiquent la justice, je vous assure que ça vous interroge et ça vous amène à vous appliquer à le faire. Noé était un homme juste. Par exemple, si vous lisez Genèse chapitre 6, vous voyez pourquoi il était juste. Eh bien, à un moment donné, il est dit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé. Vous entendez, mes frères et sœurs? Il a pris au sérieux tout ce que Dieu lui a demandé. Au travers d'un cantique, est-ce que Dieu peut vous demander quelque chose? Est-ce que, franchement, Dieu peut utiliser un cantique inspiré pour vous parler? Puisqu'il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des cantiques. Est-ce que par un cantique, par exemple, cantique spirituel? Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des cantiques qui ne le sont pas. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la différence. Mais franchement, je pense que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est capable de faire la différence entre un cantique spirituel et un cantique qui ne l'est pas. Par un cantique, comme ce qu'on a chanté ce matin, le dernier, Dieu peut nous inspirer. On dit, mais Seigneur, je veux que tu m'instruises. Montre-moi, on peut le remettre, l'avant-dernière strophe, je ne m'en rappelle plus quelle sont. Voilà, ou la quatrième. Seigneur, daigne m'instruire. Et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Merci, Ina. Est-ce que c'est votre prière? Seigneur, tu as des choses à me dire? Eh bien, je veux les entendre. C'est ça l'honnêteté. C'est pas, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, j'aimerais qu'on ait une prédication qui ne nous dérange pas, mais si vous en êtes là, ça va pas du tout. Seigneur, dis-moi ce que tu as à me dire. Dis-moi-le. J'en ai besoin. Noé était dans un monde rempli de méchanceté, rempli de violence. Il avait décidé de marcher avec Dieu dans son temps. C'est écrit comme ça, plus ou moins. Mais en tous les cas, c'est la pensée. Et quand Dieu lui disait quelque chose, il l'a pris au sérieux. Et Dieu a pu l'utiliser. Son cœur était bien disposé, malgré le temps dans lequel il vivait. Et moi, quand j'entends les chrétiens qui me disent aujourd'hui, « Ouais, mais vous avez vu dans le temps qu'on vit, est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu dans tout ce pataquès ?» Oui, on peut faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui ? Mais non, mais franchement, il faut être vraiment, vraiment loin de Dieu pour penser qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Tant que l'Église est sur la terre, le Saint-Esprit peut accomplir son œuvre. Et il faut qu'il trouve des gens avec le cœur bien disposé. bien disposé pour dire, mais Seigneur, quelle est ma place? Dis-moi, quelle est ma place? Moi, je peux vous assurer qu'avec l'affaire qui m'est arrivée il y a un an et demi, j'ai compris que celui qui est appelé au ministère, il faut qu'il s'attache à son ministère et pas à faire le secrétaire et le trésorier. Enfin, le trésorier, ça n'a jamais été mon truc. Mais faire le secrétaire et le ci et le là et le chauffeur, etc. Quoique ça me fait plaisir de le faire. Je n'étais pas du tout frustré, mais je pense que quand on dit à Dieu, montre-moi ce que je dois faire, laissez-moi vous dire que si vous êtes sincère et si votre cœur est bien disposé, il vous le montrera. Si à 3-4 ans que vous dites, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, si ça fait 3-4 ans et que ça fait 3 ou 4 ans que vous attendez, il doit y avoir un gros problème de péché dans votre vie. Et ça, c'est une affaire à régler. Le comportement de Noé est extraordinaire. Quand Dieu lui montrait quelque chose, il le faisait. Et il se peut qu'entre mes paroles, Dieu vous montre quelque chose que vous devez faire ou que vous devez réapprendre à faire. Oui, par exemple, hier je lisais également le Zacharie. Vous savez, Zacharie dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 1er si je me trompe, on peut le lire. Regardez, ça faisait quand même quelques jours que Dieu n'avait pas parlé. Ça faisait quelques jours, croyez-moi. En vérité, ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé par des prophètes en Israël. 400 ans. Bon, ils avaient la loi, ils avaient la Torah, comme on l'appelle. Et vous voyez, il n'y avait pas eu de prophétie, en tous les cas, de paroles prophétiques pendant 400 ans. Ça commence à faire, non? 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à Israël. Et regardez ce qu'il nous est dit. Alors, Luc 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous y êtes? Parce que c'est le verset 6 qui est le plus important. Tous deux étaient justes devant Dieu. Et vous avez l'explication dans la phrase qui suit. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et pourtant, croyez-moi, ils étaient dans l'épreuve, puisqu'il est dit qu'ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc il était dans le lieu saint, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le Seigneur. Et vous connaissez la suite, un ange du Seigneur va lui apparaître et va devenir le papa de Jean-Baptiste. Il nous est dit que cet homme, il était juste. Il observait la parole de Dieu d'une manière irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire infaillible. Irréprochable, ça veut dire que quand je commets une erreur, je la répare. Parce que l'infaillibilité, ça n'existe pas dans l'Église. Ça n'existe pas sur la terre. Par contre, l'irréprochabilité, ça existe. Je commets une erreur, je la répare. Une erreur au travail, je la répare. Une erreur dans l'Église, avec ma femme, avec mes enfants, avec les voisins, oui, c'est pas bien ce que j'ai dit, eh bien, je me reprends, je demande pardon. C'est ça être irréprochable. Ne vous imaginez pas que, voilà, parce que vous avez commis des erreurs, vous ne deviendrez jamais irréprochable. Non, c'est ça, être irréprochable, malgré les preuves, parce que cette femme était stérile. Et vous savez qu'à cette époque-là, une femme stérile, c'était vraiment considéré comme une véritable malédiction. Eh bien, ils avaient choisi, comme Noé, d'être justes. Et c'est là que nous comprenons le sérieux de cette affaire, puisque Dieu marche au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Alors, on pourrait prendre d'autres exemples. Hier, en priant, je l'ai partagé un peu avec les adolescents, il y a un verset qui s'est imposé à mon cœur. Mais vraiment, lorsqu'il nous est parlé de Jésus, dans Hébreux, chapitre 1er, il ne le cherchait pas, il est dit ceci, « Parce que tu as aimé la justice et parce que tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint. » L'onction qui a été sur Zacharie, comme par hasard, le jour où il était dans le lieu saint, ça vient du fait que c'était un homme qui, malgré l'épreuve, parce que je vous assure, j'ai suffisamment discuté avec des femmes stériles pour voir que c'est une affaire sérieuse, ça. Et c'est une souffrance réelle, parfois plus difficile à gérer que le deuil. Tellement les femmes souffrent de la stérilité lorsque ça leur arrive. Eh bien, cet homme, cette femme, Noé, avait choisi dans leur temps de marcher avec justice. Et il y a une bénédiction sur ceux qui sont bien disposés, sur ceux qui ont un cœur incliné, c'est qu'il peut y avoir l'onction. Parce que tu as aimé la justice, parce que tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint. Alors, les textes sont nombreux qui font référence à ce sujet, et je voudrais justement que nous le prenions avec sérieux. Est-ce que vous aimeriez que quand vous lisez le texte la prière fervente du juste a une efficacité, ce soit votre expérience. Que vos prières soient efficaces. Plutôt que de dire, je ne comprends pas, Dieu ne m'exauce pas, est-ce qu'il m'entend ? Ça, c'est ce qui n'est vraiment pas bien, quoi qu'on n'a pas jugé. Il vaudrait mieux se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne va pas, qui font que mes prières ne sont pas exaucées ? Alors, il y a cette notion de demeurer dans le Seigneur. Quand vous regardez Noé, quand vous regardez Zacharie avec Élisabeth, quand vous regardez l'enseignement de Jésus, par exemple, dans Jean au chapitre 15, il s'éclaire. Si vous demeurez en Dieu et que sa parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, vous êtes dans Isaïe peut-être ? Non, dans Luc. Dans Jérémie au chapitre 15, il y a une parole qui indique cette importance de se rattacher au Seigneur. Vous le savez, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est obéissant. Ce n'est pas ça pratiquer la justice. Ce n'est pas parce qu'on va au culte qu'on pratique la justice. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on pratique la justice. Ce n'est pas parce que je prêche que je pratique la justice. Et je suis certainement très bien placé pour le savoir. D'ailleurs, c'est Salomon qui dit dans l'Ecclésiaste, mais ne t'approche pas comme un insensé, n'apporte pas le sacrifice des insensés, ils ne savent pas qu'ils font le mal. Approche-toi pour écouter. Car quand on écoute, le Seigneur peut vraiment nous parler. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Dans Jérémie, bien sûr, Dieu veut faire une œuvre. Il est dans un moment de perplexité en même temps, puisqu'il est là. Pourquoi m'appeler au verset 18 ? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? C'est quand même Jérémie, c'est pas n'importe qui parle. Pourquoi m'appeler est-elle douloureuse ? Ne veulent-elles pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ? Comme une eau dont on n'est pas sûr ? Bon, Jérémie pose des questions quelque peu inquiétantes par rapport à la souffrance dans laquelle il se trouve. Bon, c'est vrai qu'on a le droit à s'exprimer quand on souffre. Mais regardez ce que Dieu lui dit. C'est bien, bon, la souffrance est une chose, quoique la bénédiction c'est une chose aussi. Je disais tout à l'heure avant le culte, quand on a commencé à prier, quand Dieu dit mais qu'il te bénisse et qu'il te garde. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont bénis, laissez-moi vous dire que c'est fini Dieu. Et croyez-moi, ils auraient mieux valu peut-être que l'épreuve dure un peu plus et qu'ils restent attachés à Dieu, plutôt qu'ils soient bénis et bénis et bénis et qu'ils en déduisent qu'ils n'ont plus besoin de la grâce de Dieu. Quand on est béni, et qu'on en déduit qu'on n'a plus besoin de la grâce de Dieu, je ne sais pas si on a vraiment connu le Seigneur. Je vous le dis franchement. Donc, la souffrance est une chose, la bénédiction, c'en est une autre. Et Dieu dit ceci, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Cette expression devrait nous dire, presque nous faire debout pour lire, on devrait presque se lever pour lire le texte. Parce que c'est Dieu qui parle, c'est pas les assemblées de Dieu, c'est pas un pasteur, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ça pourrait ne pas être écrit. Si c'est écrit, c'est pour qu'on dise, attends oui, mais c'est vraiment Dieu qui nous parle. C'est sérieux. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Et puis, bien sûr, il y a une promesse extraordinaire derrière. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Mais si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu n'as pas l'apparence de la piété, tu seras comme ma bouche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La portée de la bénédiction. Et Dieu ne supporte pas l'apparence de la piété. Et l'apparence de la piété, c'est ce qui caractérisera la majorité des églises lorsque Jésus reviendra. C'est écrit, ils auront l'apparence de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que les gens qui ont l'apparence de la piété, laissez-moi vous dire qu'ils vont vous entraîner dans le monde. Et il y a des chrétiens sérieux qui se sont fait entraîner au nom de la liberté. Vous savez, la liberté, mais non, ne sois pas si raide. Mais non, Dieu nous a créés pour être libres. Tu fais ce que tu veux, etc., etc. Ça, je regrette. C'est pas la doctrine saine. Et éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, je peux vous dire qu'on se doit d'aimer tout le monde, mais je crois qu'il faut savoir s'éloigner des chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété, mis à part qu'on peut aller les aider, les entourer. Si c'est pour les entraîner, ça va. Si c'est pour qu'eux nous entraînent, écoutez, il vaut mieux franchement là se protéger. Si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Zacharie, il était en train de se tenir devant Dieu. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament le témoignage de Noé, il était saisi d'une crainte respectueuse. Quand Dieu disait quelque chose, il était attentif. Et nous, le sommes-nous ? Si le Seigneur ce matin nous interpelle par ce texte, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Des textes, il y en a un bagaille dans la Bible pour nous interpeller. Regardez dans Matthieu 18, dans Luc 18. Dans Luc 18, il y a une parabole que Jésus a adressée pour qu'on comprenne cette affaire. Parce que c'est une affaire sérieuse. Il y a trop de chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils vont aller à l'église, parce qu'ils prêchent, oui, comme les pasteurs, vous voyez, beaucoup de pasteurs, ils s'imaginent que parce qu'ils prêchent, ils obéissent à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à des pasteurs qui se croyaient au-dessus du lot, « Mais nous avons prophétisé en ton nom, mais nous avons fait des miracles en ton nom. » De leur dire, « Mais attends, mais t'as vu comment on est, nous, on fait partie de l'élite dans le royaume. » Et Jésus va leur répondre, « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Parce que Dieu peut bénir sa parole, mais il ne bénira pas le péché. Il ne bénira pas le péché, parce qu'on chante des cantiques là, « Mon Jésus, je t'aime, etc. etc. » On a chanté des cantiques merveilleux, ça c'est clair, mais je peux vous dire que Dieu ne règne pas sur le péché. Si vous vivez dans le péché, il vous faut le régler. Dieu ne règne pas, vous pouvez chanter tant que vous voulez, crier tant que vous voulez. Dieu ne règne pas sur le péché. Dieu règne lorsque son nom est sanctifié. Vous connaissez tous le Notre Père, ça on peut le dire, j'espère. Que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, que ton règne vienne. Et après, on peut dire que ta volonté soit faite. Quand un homme peut dire que ta volonté soit faite, c'est qu'il a cette conviction que Dieu règne dans sa vie et qu'il fait en sorte que le nom du Seigneur soit sanctifié. Dans Luc au chapitre 18, les chrétiens avaient besoin de cette parabole. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, regardez bien, se perçut Adam qu'elles étaient justes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ? Aucun cas des autres. Vous voyez ? C'est Jésus qui donne cette parabole, s'il la donne, croyez-moi, on en a besoin. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc très religieux, et l'autre publicain, pas trop, ou pas du tout. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Vous voyez déjà ? En plus, il ne prie pas, j'ai l'impression qu'il parle aux autres surtout. « Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Vous voyez, il s'autorise en plus à se comparer à quelqu'un qui est dans l'église. « Tu vois, Seigneur, moi, comment je suis à côté de ce pauvre type, à côté de moi. »« Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Est-ce que c'est bien de faire ça ? Oui. « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors n'ayons pas le toupet de prononcer la prière du publicain en pensant que ça va marcher. Voyez, « Ô Dieu, Seigneur, je me frappe la poitrine. Sois apaisé envers moi. » Ah, mais c'est beau et spirituel. Il fait la prière du publicain. Ah, quel type bien c'est. Vous comprenez bien que là, ça peut être exactement la même chose à l'envers. Mais il y a une notion. Quelqu'un de juste, et bien sûr qu'il faut le faire. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu 23, 23, on peut le lire. Jésus revient sur ce sujet. Et là, il s'adresse à des pasteurs. Parce que vous le vouliez ou non, ces pharisiens, c'était comme aujourd'hui les pasteurs. Dans Matthieu 23, il leur reproche la même chose. Il revient sur cette affaire et on en a besoin. Parce que c'est ça le problème, c'est l'apparence de la piété. Les gens qui vont à l'église, les gens qui prient, ou les gens, vous voyez, qui disent « Moi, je jeûne deux fois par semaine. » Est-ce que c'est bien de jeûner deux fois par semaine, quand même si on a à cœur de jeûner pour l'avancement du royaume de Dieu, pour les gens? Est-ce que c'est bien si on a à cœur? Mais bien sûr, et Dieu ne reproche pas ça. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 23. Regardez, dans Matthieu 23, il le dit bien. Malheur, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui, malheur, ça veut dire que ce n'est pas la bénédiction qui va venir. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anès et du cumin. Vous voyez un petit peu le souci qu'ils avaient d'être dans la dîme jusqu'à la menthe. Vous voyez, la menthe dans le jardin, vous savez, ces petits carrés de menthe qu'on a pour épicer le taboulé. Eh bien, vous voyez, ils avaient le souci, ils arrivaient avec leur cajot. Oh, t'as vu celui-là? Il donne la dîme de la ciboulette. Tu te rends compte? Franchement, quelle bénédiction. Il donne la dîme. Et bon, regardez la suite. Et que vous laissez ce qui est le plus important. Ah, qu'est-ce que c'est le plus important dans la loi? Qu'est-ce que c'est? La justice, la miséricorde et la fidélité. Et regardez ce qu'il ajoute. C'est là ce qu'il fallait faire. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Et voyez, mes frères et sœurs, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. C'est clair. Voyez, tout à l'heure, Monsieur Olé, on a prié, on a fait allusion à tous nos frères et sœurs dans les 50 pays qui sont persécutés dans le monde. Je pense qu'au prochain conseil d'administration, on va chercher à aider ces femmes, parce que le problème, c'est que souvent, quand les hommes sont enfermés en prison, les femmes sont rejetées, les enfants n'ont plus rien, certains n'ont même plus le droit d'aller à l'école. Je pense, qu'est-ce que vous en pensez, même si un projet de l'Église connaît de ces femmes qui sont malheureuses, qui n'ont pas d'argent pour manger, qui sont rejetées, méprisées, parce que leur mari est chrétien. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que la souffrance du pasteur ou du chrétien qui est en prison. Il y a les femmes, les enfants derrière qui n'ont rien à manger. Est-ce que vous croyez que c'est bien qu'on s'en occupe? Et Dieu peut nous dire, mais oui, faites-le, on va le faire, et on va conjuguer tout ça, l'argent pour l'effort pasteur, l'argent pour les locaux, l'argent pour les travaux, mais on ne peut pas oublier ces femmes qui sont dans la souffrance. Il faut qu'on puisse s'en occuper, il faut pas négliger ces choses. Mais le plus important, c'est de pratiquer la justice, c'est-à-dire ce que le Seigneur, tu me le montres, je vais le faire. Seigneur, tu me montres combien ton nom doit être sanctifié dans ma vie, eh bien je viens m'atteler à ça. Seigneur, tu me montres que peut-être il faut que j'ai un cœur bien disposé. Je n'ai plus à cœur l'évangélisation. Je n'ai plus à cœur nos enfants dans l'église. Est-ce que c'est bien d'avoir des enfants dans l'église? Des jeunes hommes dans l'église. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avoir... Quel âge vous avez? Quel âge tu as, Mathieu? 13 ans. 13 ans. T'es grand. 13... Est-ce que c'est bien d'avoir des enfants? Vous savez, moi, ça m'arrive d'entendre des parents, des pasteurs qui me disent, il n'y a plus de gosses dans l'église. Il n'y a plus de jeunes. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'école du dimanche. Moi, je bénis Dieu qu'on ait des enfants. Tais-toi, Émeric. Parle trop, Émeric. Parle trop. Ta mère va te gronder après le culte. Est-ce que c'est une grâce d'avoir des enfants? Bien sûr, c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut qu'on ait le cœur bien disposé. C'est peut-être vous qui allez vous occuper de ces enfants. Seigneur, comment il est mon cœur? Ou est-ce que je vais juste à l'église écouter une prédication et le pasteur, il a intérêt à prêcher comme il faut? Parce que moi, je veux... Non, mais vous savez, on a des gens qui sont exigeants. C'est bien de l'être. Mais moi, je pense qu'on a le droit d'être exigeant quand on a envie de servir le Seigneur. Si c'est exigeant pour rien, c'est pas bon signe du tout. Si c'est juste une exigence qui vous préoccupe pour votre autosatisfaction, je peux vous dire que vous êtes dans de mauvais draps. Croyez-moi. Je pense que c'est bien d'être exigeant. Moi, je veux l'être, mais je crois que c'est dans le souci d'obéir à la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé. Michée, ce prophète qui a donné des choses assez raides, Michée, à un moment donné de son ministère, Jérôme faisait allusion à Ésaïe, qui au chapitre 6 a été interpellé par Dieu, parce qu'il y a un progrès dans la vie de ces ministères. Quand on étudie les livres, on ne fait pas trop attention. Quand vous lisez par exemple le cursus d'Ézéchiel, il y a un progrès dans ce ministère. Il y a un progrès, et à Michée, à un moment donné, il dit, mais avec quoi me présenterai-je devant Dieu? C'était au chapitre 6, il a beaucoup, beaucoup révélé. Mais il me dit, il se pose la question, mais comment je me présenterai devant Dieu? Et croyez-moi, Dieu lui parlait déjà. Il dit, mais est-ce que c'est avec des torrents d'huile, enfin des bidons d'huile en pagaille? Est-ce que j'offrirai mon premier-né ou mon deuxième? Est-ce que j'offrirai pour transgression? Est-ce que je vais taire ceci? Est-ce que je vais taire ça? Il a le souci de plaire à Dieu, c'est bien? Et Dieu lui dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice. Et au chapitre 7, il réagit, et laissez-moi vous dire qu'il est rempli d'assurance, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, mon Dieu m'exaucera. Il est dans cette conviction, il a compris, il avait chanté, peut-être, mon âme en silence se tient devant toi, il faut que tu me parles, je n'ai pas envie d'une prédication pour avoir une prédication, je veux une parole de Dieu. Et Michée, vous lirez la différence entre le chapitre 6 et après, et vous verrez qu'il y a quand même une révélation vraiment bénie derrière. Pourquoi? Parce que dès qu'on a le cœur bien disposé, dès qu'on dit, mais c'est vrai, si c'est écrit que tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, c'est que c'est vrai. Et ce n'est pas ça qu'on a besoin dans l'Église. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bien sûr qu'on a besoin d'un nouveau local, mais on a besoin d'un nouveau local ou on a besoin que Dieu marche avec nous aujourd'hui? Mais on a besoin que Dieu marche avec nous maintenant. Ne nous imaginons pas, parce qu'on aura un nouveau local, si c'est la volonté de Dieu, que ça va marcher sur des roulettes. Ça marche comme il faut quand les hommes et les femmes ont un cœur bien disposé et qu'ils sont sensibles à ce que Dieu dit. Zacharie et Élisabeth ont eu l'immense honneur d'enfanter le plus grand homme qui ait jamais existé, puisque c'est Jésus qui dit que c'est le plus grand parmi les hommes. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il a fait aucun miracle. Mais enfin, il a à porter le ministère de Jésus-Christ, c'était quand même quelque chose. Et bien, pourquoi ? Parce qu'ils avaient choisi d'être justes. Et dans l'église du Seigneur, moi, je me suis fait piéger. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Et j'en ai honte. J'en ai honte parce que je réalise que dans bien des domaines, moi, le premier, je n'avais pas pratiqué la justice. Et c'est vrai que prêcher, je sais ce que c'est, vous le voyez, mais prêcher, ça ne veut rien dire. C'est obéir qui veut dire quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quoi que ce soit que vous fassiez, quoi que ce soit que vous soyez amené à faire, parce que vous le savez, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confie de plus grandes. Mais moi, je vous avoue que des fois, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui. Je me fais du souci pour certains chrétiens qui se contentent de l'apparence de la piété, et je sais très bien, ça me brise parce que c'est dans l'assemblée où Dieu m'a mis pasteur, c'est peut-être de l'orgueil. Mais une chose est sûre, il y a des chrétiens parmi nous qui ne sont pas prêts. Regardez bien, Judas, il avait un bon pasteur, Judas. Oui ou non ? Est-ce que Judas avait un bon pasteur ? Je pense, oui, qu'il tenait debout. Ça ne l'a pas empêché que l'amour de l'argent, il ne le règle jamais. Il ne l'a jamais réglé. Vous connaissez la suite, c'est terrible. Alors c'est vrai que la Bible dit de ne pas aimer le monde. Que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est écrit. Celui qui aime... Alors ne confondez pas avec les choses nécessaires, parce qu'il y a des nécessités. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses nécessaires. Avoir une maison ou un appartement, est-ce que c'est une nécessité ? Oui, avoir des vêtements, avoir à manger, avoir tout ça. Un travail, est-ce que c'est une nécessité ? Ce n'est pas ça, aimer le monde. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on explique une chose, les gens, ils basculent complètement. Il y a des nécessités. Une maison, une voiture, des habits, je ne sais pas moi, plein de choses. C'est une nécessité. Et ces choses-là, il faut les apprécier et les aimer. Si Dieu vous a donné un travail, mais bénissez Dieu pour votre travail. Oui ou non ? Bénissez et aimez le travail. Ne partez pas le lundi matin comme si vous alliez à un enterrement. Bénissez Dieu. C'est une bénédiction, le travail. C'est une nécessité. C'est pas ça. Aimer le monde, c'est que les choses de la terre ont plus d'importance que Dieu. J'aime bien Dieu, mais voilà, moi je préfère la télé ou telle série télévisée à la réunion de prière. Bon, mais là déjà, ça commence à vous aiguiller si vous aimez plus le monde que les choses de Dieu. Mais les nécessités, bénissez Dieu pour tout ce que le Seigneur vous a donné. Mes frères et sœurs, celui qui pratique la justice. Je termine avec cette pensée, parce que l'heure tourne et qu'on doit arrêter à 11h, 11h05. Quand Jésus a dit, par exemple, il a lavé les pieds à ses apôtres, et il leur a dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous êtes d'accord ? Voilà. Quelle bénédiction ! Alors, je termine avec cette question. Est-ce que nous avons envie, vraiment, en fonction de la volonté de Dieu, de faire comme le Seigneur nous a fait? Est-ce que le Seigneur a béni les hommes en leur lavant les pieds? Est-ce qu'il a lavé les pieds à Judas? Est-ce qu'il lui a lavé les pieds? Ou est-ce qu'il lui a brûlé les pieds? Il a demandé de l'eau un peu plus chaude. Est-ce qu'il lui a lavé les pieds? Oui, il lui a lavé les pieds. Je suis sûr qu'il l'a fait avec plein d'amour. Je suis sûr qu'il l'a fait. On ne peut même pas s'imaginer la miséricorde. Je suis sûr que même là, il a voulu lui parler. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et que même quelqu'un qui t'avare, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il soit pasteur, parce que c'était un pasteur, Judas, eh bien c'était qu'un homme avare. Et franchement, il avait trois ans et demi pour aller voir Jésus et dire, écoute Seigneur Jésus, tu vois, j'ai un problème avec l'argent, ça me pèse, ça m'énerve, franchement, délivre-moi. Est-ce que Dieu l'aurait fait ? Mais oui, il l'aurait fait. Et même qu'une fois qu'il a vendu Jésus et qu'il s'est rendu compte que ça tournait vachement mal, est-ce qu'il aurait pu courir au calvaire comme Pierre et dire « Seigneur, je te demande pardon ». Est-ce qu'il aurait pardonné ? Est-ce que Jésus aurait dû dire « Non, pas toi ». Oui. Mais combien de gens n'arrivent pas à saisir le pardon parce qu'ils ne comprennent pas l'exemple ? Faites comme je vous ai fait. Faites comme je vous ai fait. Alors, on y reviendra là-dessus. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons que si nous recevons de l'amour, parce qu'il faut le recevoir, c'est pas avec notre amour à nous qu'on va y arriver. Seigneur, j'ai besoin de me tenir dans ta présence. Tu te tiendras devant moi. Zacharie et Élisabeth se tenaient devant Dieu. Noé était juste, il se tenait devant Dieu. Et Dieu a pu lui parler, Dieu a pu l'utiliser. Oui, l'arche, il faut la construire. Et il faut construire l'arche biblique, l'arche spirituelle, pas un bateau pour mettre les Toulousains, mais une belle église pour que les gens viennent chercher Dieu et se mettent à croire en Dieu. Et ce qu'on a besoin, c'est de l'approbation divine, que le Saint-Esprit approuve nos réunions et que la sainteté soit notre partage. Car quand Dieu est sanctifié, nous voyons le Seigneur agir. C'est ce que nous voulons, mes frères et sœurs. Oui, nous voulons voir ces choses d'une manière profonde se manifester. Je recevrai sa bénédiction dans sa présence et je pourrai bénir les autres. Est-ce que ça vous intéresse de bénir les autres? Est-ce que vous bénissez les autres ou est-ce que vous les fatiguez? Ne riez pas parce que c'est vrai. Ça arrive, ça. Est-ce que vous bénissez les autres au travers de votre comportement, au travers de vos paroles, au travers d'autres façons de faire? Si je reçois son amour, je pourrai aimer les autres. Si j'arrive pas à aimer, si je suis tout le temps en train d'être résigné, de serrer les dents, ben ne vous morfondez pas. Il dit, Seigneur, donne-moi ton amour. Vous le recevrez. Mais ça prendra du temps. Ça prend du temps. Regardez comme on est capable de se prendre 8 jours de congé pour aller en vacances. Est-ce qu'on est capable de se bichonner des vacances parfois? Ah, j'ai besoin de 3 jours. J'ai besoin de 8 jours de vacances. Ne me dites rien pendant ces 8 jours. Est-ce qu'on est capable de s'occuper de son corps? Et on n'est pas. Mais franchement, si on était intelligent, oui, je parle intelligent, et surtout éclairé, est-ce qu'on ne prendrait pas du temps de qualité pour se tenir devant Dieu, pour que l'on devienne les chrétiens que Dieu veut que nous devenions, afin de recevoir l'amour pour aimer les gens, afin de recevoir la bénédiction pour bénir les gens, afin de recevoir, je ne sais pas moi, tout ce qu'on a à donner, de servir, oui, des cœurs bien disposés. Combien je voudrais que Dieu trouve dans cette assemblée, moi le premier, je me mets avec vous, des cœurs bien disposés, des gens qui vont dire, voilà, Seigneur, tu m'appelles à faire ça, mais je vais le faire de bon cœur. Moi, Dieu m'appelle à vous prêcher la parole, et bien je veux le faire de bon cœur. Vous préférez un pasteur qui fasse la tête tout le temps ou un pasteur qui soit joyeux parce qu'il pratique avec joie la justice? Parce que vous pouvez l'avoir, un pasteur qui tout le temps qui fasse une tête de boudin. Vous n'avez jamais vu ça? Non, mais ça arrive. Moi, j'ai vu ça. Vous voulez ça ou vous voulez un pasteur qui pratique avec joie la justice? Est-ce que vous voulez pratiquer avec joie la justice? Nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De voir des parents qui pratiquent avec joie la justice. Alors on va se recueillir. Vraiment, vraiment. Et de cette façon, laissez-moi vous dire que si on pratique la justice, il marchera devant nous, le Seigneur. Il marchera devant nous. Voilà, on va participer à la Sainte-Seine. Voilà, si... Michael, tu veux bien choisir quelques frères, s'il te plaît? Voilà, nous restons recueillis. C'est un moment très sérieux où nous devons considérer le Christ crucifié, ressuscité, glorifié, assis sur son trône. Ce vin nous parle de son sacrifice, ce vin nous parle de ce jour où on en prendra avec lui dans le royaume de Dieu, si on y va. Alors, quelle bénédiction de prendre la Sainte-Seine, quelle bénédiction de se recueillir et de dire « Oui, Seigneur, cette affaire de pratiquer la justice, je veux le faire. Je ne vais pas prendre la Sainte-Seine en pensant que tu me bénis parce que je prends la Sainte-Seine. » Mais je veux vraiment une vraie communion avec toi. Je voudrais ressembler à Noé. Je voudrais ressembler à Élisabée. Je voudrais ressembler à ces hommes et femmes qui ont marché d'une manière juste parce qu'ils ont été attentifs. Qui ce matin peut prier en même temps et dire « Oh Seigneur, oui, je veux un cœur bien disposé pour être une bénédiction auprès de ma famille, auprès de mes enfants. Je veux être cette... » Dieu va vous aider. Vous n'y arriverez pas vous-même. Mais par l'Esprit, vous pourrez faire mourir les actions de la chair. Alors bénissez Dieu pour tout ce qu'il vous a donné, que toutes ces nécessités soient des bénédictions dans votre vie. Mais s'il y a de l'amour du monde, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. Oui, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Voilà, si vous êtes baptisé, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, levez-vous à votre place. Faites-le consciencieusement, faites-le joyeusement, faites-le avec ce cœur incliné en disant « Seigneur, je veux ce cœur, je le veux ». Et laissez-moi vous dire que si Dieu voit votre détermination, Dieu vous l'accordera. Que le Seigneur vous bénisse.